Pour commencer cette émission par l'actualité des industries culturelles et du numérique, nous avons lu, je l'ai dit, les mémoires d'Edward Snowden et nous allons en débattre dans un instant. Mais juste avant, le livre. Permanent Record, c'est son titre, livre d'Edward Snowden, a été publié mondialement cette semaine et donc en France, sous le titre, le très beau titre d'ailleurs, Mémoire vive par les éditions du Seuil. En trois parties et 380 pages, l'ancien jeune agent contractuel de la CIA et de la NSA raconte comment il a travaillé pour le gouvernement fédéral américain et comment aujourd'hui il est au service de nous tous. C'est la première phrase de ce livre et elle est forte. Dans les pages qui suivent, Snowden décrit minutieusement sa vie en exil à Moscou, mais aussi auparavant sa jeunesse, ses idées politiques, l'école, sa passion d'Internet et comment il a rendu public en 2013 des documents américains ultra confidentiels qui ont permis de révéler au monde, monde étourdi, monde colère, un système global de surveillance de masse. Des milliards d'emails, des milliards de coordonnées téléphoniques, nous sommes tous intégralement surveillé constamment dès que nous faisons quoi que ce soit en ligne par le gouvernement américain. On a appris également que les Américains espionnaient des chefs d'entreprise, le commissaire européen en charge de la concurrence, alors qu'il menait à cette époque une enquête contre Google et Microsoft, la présidente du Brésil à l'époque, et même le téléphone portable de la chancelière Angela Merkel. Grâce à Snowden, la question de la vie privée sur Internet a été posée. Il y a un avant et un après Snowden dans l'histoire d'Internet, ces révélations ont marqué la fin de l'innocence du web. Cette année-là, en 2013, le Washington Post a fait de Snowden son homme de l'année. Et depuis, en Europe comme ailleurs, c'est une vague d'inquiétude, sinon de consternation et de contestation. Le web a changé de nature, la peur de la surveillance de masse, le contrôle des données, la peur du flicage sont devenus des thèmes récurrents, grâce notamment au courage de ce jeune homme qui n'avait pas 30 ans au moment des faits et qui a changé l'histoire du web plus que quiconque avant ou depuis. Qui est Edward Snowden? Quelle fut sa vie avant sa trahison, son acte héroïque selon le jugement qu'on porte? Comment vit-il aujourd'hui? Le livre nous raconte cette vie depuis cette jeunesse jusqu'à l'exil russe. Celle d'abord d'un jeune geek américain très tôt passionné par le web plus que par l'école. Les pages qu'il consacre au web sont passionnantes. Il décrit les débuts d'Internet où le web était alors un ami, dit-il, quelqu'un de la famille. Un web qui était encore une communauté ouverte. Son premier ordinateur va devenir son meilleur ami. Nous sommes aussitôt devenus inséparables, écrit-il, l'équivalent d'un frère ou d'une sœur, et aussi mon premier amour. Pour lui, le web et Internet sont du côté du bien. Dans ces chapitres où il fait l'archéologie du web, Snowden passe en revue les premiers outils, les premiers logiciels, les premiers sites qu'il visite, parfois même du porno soft gothique, porno soft goth. Il montre qu'on y était sous pseudonyme, libre et heureux quand on savait y nager comme un geek dans la toile. Edward Snowden a tort cependant lorsqu'il fait du web un monde à but strictement lucratif et réservé aux échanges peer-to-peer. Que les entreprises et les États s'en mêlent était inscrit dans l'ADN du web et ce n'est pas cela le problème. Que serait le monde d'ailleurs et le numérique sans le marché? Pas grand-chose sans doute. Snowden est un libertarien, un nostalgique du web communautaire, un peu rousseauiste, hein, le second discours de Rousseau. L'Internet devait être non marchand, écrit-il, pense-t-il, alors que en réalité, tout annonçait qu'il le deviendrait, un peu comme si l'agriculture devait servir à nourrir seulement les paysans et non pas le monde entier. Sa vie de jeune geek qui croit en son pays est bien racontée. C'est un Edward Snowden normal, presque banal que nous découvrons. Il ne boit pas, il ne se drogue pas, il n'a jamais fumé une cigarette, avoue-t-il. Un garçon comme les autres dont les deux parents travaillent, c'est un peu différent pour le gouvernement et même déjà pour les services secrets américains. Alors il apprend tout, lui tout seul, chez lui, pas très souvent à l'école, il apprend tout sur le web. L'Internet est son école et bien sûr, il arrête le lycée, Snowden devient un jeune pirate. Aujourd'hui, Edward Snowden vit à Moscou et il dit dans l'une des principales interviews accordées cette semaine que l'on va écouter que Moscou, je le cite, est en fait un peu comme New York pour le meilleur et pour le pire. En même temps, je le cite encore, le problème à Moscou, c'est la politique, la question des droits de l'homme qui est terrible et beaucoup de gens ne réalisent pas que je n'ai pas choisi d'aller en Russie. J'étais en route vers l'Amérique latine et les États-Unis ont annulé mon passeport. Et quand j'étais piégé, enfermé dans l'aéroport de Moscou, j'ai passé 40 jours bloqué là, dans cet aéroport. Je ne sais pas combien de temps au maximum vous avez été, vous, retardé dans un aéroport, mais moi, ça a duré 40 jours. Vous imaginez, ce n'était pas le meilleur de mon séjour en Russie. Pendant ces 40 jours, j'ai fait, dit Snowden, 27 demandes d'asile à la France, à l'Allemagne, à l'Italie, à la Norvège. Et chaque fois qu'ils étaient prêts à accepter ma demande d'asile, les États-Unis intervenaient et menaçaient ces pays de conséquences, même si ce n'était pas légal. Et en fin de compte, vous pourriez vous dire qu'un agent, en tout cas un ancien agent de la CIA, un ancien agent de la NSA, le gouvernement américain, voudrait peut-être qu'il soit ailleurs qu'en Russie. Alors pourquoi ont-ils été si actifs pour me garder là, à Moscou? Et la réponse est que c'est une stratégie politique de facilité et qui ne changera pas de sitôt. J'ai traduit son intervention et laisse maintenant le texte en anglais pour que chacun puisse mieux l'entendre en ses propres mots avec sa voix. Edward Snowden interviewé via Skype par Trevor Noah pour le Daily Show, c'était ce vendredi.
So Moscow is actually a lot more like New York than you might think, for good and bad there. The problem is the politics in Russia, the human rights record of Russia are terrible. And a lot of people don't realize, and this is extensively covered in the book, I didn't choose to go to Russia. Right. I was en route to Latin America. The United States government canceled my passport. And then when I was trapped in the Russian airport, I spent 40 days stuck in an airport because I wouldn't cooperate with the Russian authorities. I don't know what the longest layover you guys have ever had, but 40 days. that was not the best part of the time I've spent in Russia. I applied for asylum in 27 different countries around the world, places like France, Germany, Italy, Norway. And every time they got close to letting me come, the United States government would call their foreign ministry, and it would be either then the vice president or then the secretary of state, and they would say there would be consequences if you let this guy in. Doesn't matter if it's legal, doesn't matter if the Universal Declaration of Human Rights says he has a right to seek and enjoy asylum. There's going to be consequences. We're not going to say what they are, but there will be punishment. And so what I ask you guys is, you would think, right, former NSA, former CIA, like the last place on earth the government would want me to be is in Russia. Why are they working so hard to keep me here? And I think the reality is it's just a convenient political attack that will never go away.
Edward Snowden est-il un traître ou un héros? L'opinion publique, en fait, est très divisée, plus divisée qu'on ne le croit même aux États-Unis. Au-delà de 30 ans, les Américains pensent à plus de 60% que Snowden doit être condamné pour haute trahison. En revanche, entre 18 et 30 ans, ils ne sont plus qu'un tiers à le vouloir. En gros, les jeunes Américains le soutiennent et les moins jeunes l'accablent. Il y a plus, Snowden est considéré comme un traître par les Républicains et sur la côte Est, à Washington notamment, mais il pourrait bien devenir un héros sur la côte Ouest, parmi les démocrates et dans la Silicon Valley en particulier. Traître ou héros, Edward Snowden a répondu à cette question. Je le cite, « Aux gens qui se demandent si je suis un héros ou un traître, je réponds que je suis juste comme eux. Les lanceurs d'alerte ne sont pas élus, nous ne sommes pas exceptionnellement doués. Ce qui nous a fait agir, ce sont les circonstances, ce sont les faits, ce que nous avons vu, non pas ce que nous sommes. Nous sommes élus par les circonstances. »
When people ask me if I'm a hero or a traitor, I say, look, I'm just an ordinary person. I'm like you. Whistleblowers aren't like, you know, we aren't elected. We're not exceptionally skilled. The thing that puts us in place, the thing that makes the disclosure matter are the facts. It's really about what you see rather than what you are. So right. We're kind of elected by circumstance.
Traître ou héros, disons-le ici, Edward Snowden est coupable. Et à nos yeux, il l'est même de haute trahison. Il serait ainsi dans n'importe quel pays, il serait partout arrêté, condamné, et même sous certaines latitudes, fusillé. Mais la question se pose aussi autrement. Il a commis un crime, certes, mais ce qu'il a révélé était également un crime, y compris au regard de la Constitution américaine. Plusieurs juges et d'innombrables organisations des droits de l'homme, notamment aux États-Unis, estiment, comme Edward Snowden, que la collecte d'informations de masse de la NSA était arbitraire et qu'elle violait la Constitution américaine. Espionner des terroristes potentiels ne suscite en soi guère de débat aux États-Unis comme en France. Et c'est normal que des services secrets le fassent. Les cibles individuelles font consensus. Par contre, collecter systématiquement, massivement, des milliards d'informations sur des millions de citoyens sans avoir le moindre soupçon à leur égard est à la fois inédit et juridiquement contestable. Car en fait, il existe un amendement de la Constitution américaine sur lequel Edward Snowden revient longuement dans son livre, le 4e amendement, qui est très clair sur ce sujet. Il protège la vie privée et interdit toute forme de quête non raisonnable. Il y a plus. L'une des principales décisions de la Cour suprême américaine concerne la vie privée. Baptisée Katz versus United States en 1967, elle a étendu ce 4e amendement aux technologies de la communication. Donc le traître est aussi un héros et vice-versa. Le héros est aussi un traître. On voit combien la situation est complexe. L'ouvrage est passionnant sur tous ces sujets, du début à la fin, et je retiens notamment la démonstration de Snowden, qui est très efficace et qui le démarque en fait de Wikileaks et de Julian Assange. Politiquement, Snowden n'est pas un anarchiste anti-système. Il se bat au nom de la Constitution américaine, l'inverse d'Assange, qui est lui contre l'Amérique. Snowden ne croit pas que toutes les données doivent être révélées au grand public. Il n'a jamais voulu nuire ni à des diplomates, ni à des espions américains en donnant leur nom au grand public. Il se bat, par contre, pour lutter contre la transparence qui est oubliée et qui, à ses yeux, n'a pas de sens. Il ne souhaite pas cette transparence totale, il souhaite juste qu'on sache ce que font les services secrets. Il se bat pour l'idéal d'un état de droit où les services secrets, justement, eux aussi, respecteraient la loi et obéiraient au pouvoir législatif et judiciaire. Ce qui, à ses yeux, n'a pas été le cas. La suite, maintenant. Eh bien, Edward Snowden, interviewé par le Daily Show ce vendredi, est revenu sur son exil et son éventuel procès. « À la fin, mon but, dit-il, est de rentrer aux États-Unis. Et j'ai dit au gouvernement depuis le début que je reviendrai à une seule condition. Si je suis certain d'avoir un procès juste, un procès équitable. Il y a deux questions ici. Est-ce que la loi a été violée? Le fait de transmettre des informations classifiées à des journalistes? Mais il y a aussi une seconde question. Si la loi a été violée, était-ce justifié? Réfléchissez à cela. » Si vous assassinez quelqu'un, par exemple, que vous dites à la cour que vous l'avez fait dans une situation de légitime défense, alors la justice peut dire que oui, vous avez tué quelqu'un, que vous avez violé la loi, mais que vous l'avez fait en tuant quelqu'un parce que c'était justifié. Le gouvernement défend l'idée que dans mon cas, il n'y avait aucune justification à parler aux journalistes, quelle qu'en soit la raison. De fait, ils interdisent par principe à la cour d'entendre cet argument. Vous ne pouvez pas même vous défendre par principe. On ne peut pas être défendu. Edward Snowden.
My ultimate goal will always be to return back to the United States. And I've told the government, actually, from year one, that I only had one condition for returning, and that's that I could get a fair trial. Now, people go, oh, well, what's a fair trial? What does that mean? And I think that's actually not that hard a question. There are two questions that come up in this case. One, was the law broken? And that's not actually really particularly the interesting question, because the law in this case is simply, was classified information given to someone who is not authorized to receive it, which is basically any journalist. It's the public, it's you, it's everyone who did not know that their constitutional rights were being violated, because that was the secret. But there's another question there, which is, okay, if the law was broken, was it justified? And think about this. If you murder someone, you can tell the jury, well, they were trying to kill me. It was self-defense. The jury can go, well, yes, they did break the law. Yes, they did murder someone, but it was justified. The government argues that there is no justification for telling a journalist, no matter what. In fact, they forbid the jury from hearing why you did what you did.
Edward Snowden, Mémoire vive, vient de paraître aux éditions du Seuil. Alors nous sommes à 18h28 en direct sur France Culture avec Zoé Sfès de France Culture et Emmanuel Paquette de L'Express. Vous avez lu aussi tous les deux ce livre. Peut-être Zoé, pour commencer, après ma présentation, avec un extrait d'interview de Snowden au Daily Show.
Alors c'est un livre que moi personnellement j'attendais énormément. Alors pour une raison simple, c'est que si vous êtes un peu intéressé à cette affaire Snowden, vous avez probablement, comme moi, et je vous invite à le faire si ce n'est pas le cas, vu le film de Laura Poitras qui s'appelle Citizen 4, qui est en réalité un document complètement exceptionnel pour moi et dans l'histoire du cinéma et dans celui de l'enquête, puisque Laura Poitras est la journaliste qu'Edward Snowden a contacté pour commencer à lui faire des révélations. Et au-delà du fait qu'elle est une journaliste d'enquête et qu'elle avait déjà des indicatesses avec Washington, c'est une documentariste. Et donc ce film est incroyable parce que c'est un film qui met en scène Snowden au moment où les révélations vont être faites, sont faites, puis les suites. Et on découvrait un peu, on pressentait ce qu'était cet homme aussi, j'ai envie de dire, idéologiquement, dans ses compétences. On voyait quelqu'un de très articulé, comme on dit en anglais. Moi, je trouve ce livre passionnant. Certains critiques ont été assez dures sur la première partie qui consiste à raconter son enfance. Or, pour moi, c'est vraiment un moment, toute la première partie du livre, jusqu'à ce que Edward Snowden s'engage et commence à travailler à la NSA et à la CIA. C'est un document qui vaut en soi, qui nous raconte ce que c'est qu'un jeune Américain dont les parents travaillent pour l'État, petit-fils de pionnier, puisqu'il est petit-fils de pionnier par les deux côtés, par sa mère et par son père, et comment il découvre l'informatique et comment tout ça, en fait, ne fait qu'un. C'est-à-dire que c'est cette fameuse culture américaine où la liberté est au centre de tout, et l'amour de l'État dépend de l'amour de la liberté. C'est un petit peu l'idée. Edward Snowden ne cache pas son amour pour la Constitution américaine. Il la lit très souvent, même plus tard dans sa vie. Et ensuite, en fait, il a cette deuxième partie quand il commence à s'engager pour l'État, qui est le moment du 11 septembre. Moi, c'est un moment que je retiens dans ce livre. C'est le moment où Edward Snowden nous dit, mais moi, comme tout le monde, le 11 septembre, en plus, j'étais à Fort Meade dans les locaux de la CIA. Et moi aussi, j'ai eu envie d'aider mon pays, je suis devenue patriote et j'ai plié à cette idée de la peur et je me suis engagée dans l'État en tombant dans le même piège que tout le monde, y compris le gouvernement américain.
Et en montrant d'ailleurs que tout change à partir de là.
Que tout change à partir de là. Et c'est
ça qui est très intéressant. En termes de sécurité aux États-Unis et
ailleurs. Tout à fait. Et il découvre l'ampleur de ce changement quand ensuite il devient donc ingénieur système à la NSA puis à la CIA, souvent par le biais de boîtes privées qui sont des sous-traitantes.
C'est une partie passionnante.
Donc ça, c'est la partie, je vais appeler plutôt technique, mais sur la partie, disons, théorique et politique. Et on comprend assez vite, en fait, parce qu'on a eu toute cette première partie du livre, pourquoi en réalité, et ça, il le rappelle, quand il s'engage pour les services secrets, Edward Snowden ne jure pas son engagement sur la Bible, à ses employeurs, etc. Il le fait sur la Constitution. Et c'est ça, toute l'idée, c'est de dire, j'ai été effectivement un traître à mes employeurs, mais j'ai été fidèle à ce sur quoi j'ai juré quand je me suis engagé chez ces gens, c'est-à-dire la Constitution.
Parce que même ne respectent pas cette Constitution.
Parce qu'ils ne la respectent plus.
Puisque devant le Congrès, ils mentent et ils ne racontent pas, même peut-être au pouvoir exécutif, ce qu'en réalité ils sont
en train de faire. Donc pour moi, c'est très intéressant et c'est vraiment, ça explique très bien ce divorce qui va le mener à déclencher des crises d'épilepsie. C'est-à-dire que c'était pas un mec qui s'est réveillé comme ça un matin en se disant c'est une catastrophe. On voit comment, en fait, le fait de prendre conscience de tout cela le mine au quotidien, petit à petit, le pousse à déclencher des crises d'épilepsie et comment ça devient finalement, cette idée de révéler ces informations devient la seule solution, même pour survivre pour lui. Ça, c'est quand même très intéressant, notamment parce que, et le gouvernement et certains médias ont essayé de discréditer aussi ce personnage, on ne comprenait pas très bien pourquoi. Et l'autre partie qui est très intéressante, c'est la partie proprement technique de ce livre, c'est-à-dire à la fois comment il explique les strates, comment fonctionnent ces agences américaines que nous, particulièrement en France, on connaît très mal, comment il explique pourquoi, d'une part, le fait que ces agences ont eu la nécessité de se moderniser très vite, elles ont eu recours à des gens comme lui et les a fait monter trop vite. C'est-à-dire, et c'est ce qu'il dit, c'est dans le livre à un moment donné, c'est incroyable, on m'a fait monter trop vite, on m'a donné trop d'argent, je suis devenu trop, entre guillemets, puissant, trop
j'étais
jeune.
J'étais un de ceux qui avait le plus d'informations parce qu'il était ingénieur système.
Alors ça, c'est l'autre chose, mais au-delà de ça, il dit, il ne fallait pas me donner autant d'informations avant que je sois trop vieux et avant que j'ai pu devenir cynique. C'est ça qui est fou, c'est parce qu'il a été en mesure de voir ton information et pourquoi il l'a été, parce qu'il est ingénieur système. Et ça, encore une fois, quand on est peu familier de l'informatique, c'est un livre extrêmement didactique sur ce que c'est qu'effectivement le hardware, le software, pourquoi un ingénieur système qui est donc celui qui doit comprendre et en tout cas faire en sorte que le système fonctionne est paradoxalement habilité à voir des choses que des gens qui sont formés, qui sont dans le cœur même du métier du renseignement ne peuvent pas voir. Et c'est comme ça que lui...
Il y a des pages aussi où il explique comment il sort avec, alors non pas ses clés USB,
mais ses Rubik's
Cube. Il reste assez discret avec des cartes son en fait, éclat de flash je crois, et il fait sortir
carte
ça.
Carte SD, celles sur lesquelles on enregistre.
Des mini SD même, et comment il les sort.
Les sort de son Rubik's Cube, donc voilà.
Rappelons que ce livre est écrit avec Joshua Cohen, qui est un écrivain, donc je pense que ça joue quand même beaucoup sur le processus d'écriture. Il le dit d'ailleurs clairement. Rappelons aussi que ce livre fait l'objet d'un procès immédiat qui a été déclenché par le gouvernement américain pour essayer de au fond de lui piquer une partie de ses royalties face à son avocat. Et rappelons aussi que le livre est très dur sur la presse, notamment sur le New York Times, à qui il ne faisait pas confiance. C'est pourquoi il le donne finalement à Laura Poitras, mais aussi à Glenn Greenwald, pour le Guardian en Angleterre. Emmanuel Paquette.
Oui, alors ce que disait Zoé est exact. C'est vrai que par rapport à tout ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant sur Snowden, c'est-à-dire il y a eu effectivement ce documentaire de 2014 qui a gagné un Oscar à Hollywood. Donc c'était un Oscar très politique.
Un moment incroyable.
Voilà, exactement.
Avec sa compagne qui monte sur scène. Alors que
mais il y a eu aussi le film d'Oliver Stone de 2016 qui s'appelait Snowden, qui retrace lui aussi les éléments de la vie d'Edward Snowden en tant que consultant extérieur, donc chez Booz Allen quand il était à la NSA et la CIA. Et donc ce qui est clair un peu effectivement ce livre, c'est plutôt la personnalité qu'on connaissait pas vraiment de Snowden, ses motivations, ses ressorts, et puis cet éveil, c'est une forme d'éveil d'une conscience au fur et à mesure qu'il découvre des éléments au sein des services de renseignement. Alors moi, j'ai deux, trois petits problèmes avec le livre. Le premier, c'est qu'il mélange assez fréquemment ce qu'on appelle du renseignement interne, intérieur, et du renseignement extérieur. Le renseignement extérieur, aujourd'hui, eh ben, toutes les agences de renseignement font à peu près ce qu'elles veulent, puisqu'elles ne sont pas soumises aux lois de leur pays. Donc elles peuvent capter toutes les informations qu'elles veulent d'à peu près tout le monde, et elles n'ont rien à dire, et ça fait partie de...
Donc là, la Constitution américaine n'a rien contre, d'une certaine manière.
Elle s'applique qu'aux Américains, ouais, par essence. Donc
ça,
l'ouvrage...
Ça, il l'explique quand même à un moment donné. Rapidement, je suis d'accord.
Très rapidement, et en fait, ça ne protège pas, du coup, les ressortissants français, allemands, etc. Son livre ne protège en rien des ressortissants non américains. Donc ça, c'est le premier point. Le second point sur le renseignement dit intérieur, c'est que la défense qui est avancée par les services, c'est qu'ils utilisent simplement ce qu'on appelle des métadonnées. Alors, les métadonnées, c'est pas le contenu des conversations ou des échanges électroniques, c'est simplement les heures de connexion, avec quel terminal, depuis où. Donc c'est comme ça qu'ils arrivent en fait à dire qu'ils n'ont pas écouté les Américains. Ce qui est vrai, ils n'ont pas écouté les Américains. Ils ont simplement collecté des métadonnées, donc des éléments constitutifs de type de connexion que vous pouvez avoir, combien de temps.
Et avec... c'est seulement si vous avez appris une preuve sur quelqu'un que vous pouvez aller voir
après,
les contenus.
Exactement.
Mais vous les avez quand même collectés.
Alors ce que dit Edward Snowden, c'est justement que les métadonnées, contrairement à ce qu'on pense, sont des éléments extrêmement invasifs et pervasifs en termes de... pour savoir ce qu'il y a dans votre vie privée. Par exemple, alors il donne pas cet exemple, mais c'est un exemple qu'on a vu assez souvent, une femme qui tombe enceinte et qui appelle une clinique pour se faire avorter. On comprend assez facilement, sans connaître le contenu des conversations, que quand elle appelle deux, trois fois cette clinique, c'est vraiment pour, a priori, se faire avorter. Donc, pas besoin d'avoir accès au contenu des données de temps en temps ou du contenu des conversations pour savoir ce qui se trame. Donc, c'est ce qu'essaye de dire Edward Snowden, et de dire qu'en fait, la technique, c'est pour ça que le terme métadonnées est un peu un terme abscon, mais permet de masquer des activités qu'on peut qualifier d'illégales des services de renseignement. Donc c'est de ce point de vue-là, le livre est relativement éclairant sur la politique intérieure des États-Unis, un peu moins sur la politique extérieure des États-Unis. Et puis, dernier point, on voit effectivement les différentes technologies qui sont mises en place, notamment la plus puissante, hein, celle qui termine le livre, qui s'appelle XKickScore, qui est en fait un espèce de Google sur lequel vous rentrez le nom d'une personne et vous avez ses relations, tous ses échanges par mail, les vidéos qu'il a pu regarder, tous les contacts. Et donc, c'est là où en fait on est un peu pris de vertige, parce que on peut remonter aussi dans le temps, savoir avec qui il est rentré en contact, une cible est rentrée en contact, pendant combien de temps. Donc cet élément-là est assez perturbant, et c'est ce qui déclenche à la fin, ils vont savoir plus avant de partir avec des éléments et de les donner à la presse. Alors, toute dernière petite chose, ce que je regrette aussi, c'est le questionnement sur ces révélations. C'est-à-dire, est-ce qu'on vit dans un monde meilleur aujourd'hui ou pas ? Il y a quelque chose qui n'est pas vraiment abordé dans l'ouvrage, c'est qu'on voit aujourd'hui que tout, quand on parle avec les services d'enseignement, français en particulier, alors ils ont été surpris par, disons, les capacités techniques des Américains. Ils se doutaient qu'ils étaient en avance, mais pas à ce point. Et donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une course en fait. Il a déclenché une course à l'armement. C'est-à-dire que tous les pays du monde veulent rattraper les États-Unis. Tous les services de renseignement de la planète aujourd'hui ont des budgets qui explosent. Et ça, on le doit à Edward Snowden. C'est quand même la contrepartie du
paradoxal, ouais.
Paradoxalement, c'est qu'en essayant de nous protéger...
C'est-à-dire que maintenant, il n'y a pas que seulement les Américains, mais tout le monde écoute tout le monde.
Tous les pays essayent de développer leur arsenal technologique et essayent de recruter massivement.
Et d'une certaine manière, c'est aussi la critique qu'on peut faire au livre, c'est que ça prouve que les États-Unis est une vraie démocratie, puis c'est quand même paru partout, ça s'est su, alors qu'on n'a pas eu de Snowden chinois, on n'a pas eu de Snowden russe, on n'a pas eu de Snowden iranien.
Oui, mais en même temps, il le dit. D'ailleurs, à la fin, il y a quand même une espèce de moment conclusif dans son livre où il essaye justement de regarder avec une forme de modestie plus ou moins larvé, ce qui s'est passé. Ça, effectivement, les États-Unis sont une démocratie puisque cette question est là-dessus, mais mine de rien, les États-Unis le pourchassent toujours. Et d'autre part, il y a quand même eu le mérite d'attribuer, disons, de mettre ce débat public sur la table. Et d'ailleurs, il le dit, il l'avait dit dans une interview, je trouve que c'est un petit peu dommage qu'il le redise pas là. C'est-à-dire que lui, il disait, je veux qu'il y ait débat public là-dessus, et peut-être, et d'ailleurs il le sous-tend, que les gens s'en fichent en fait, qui sont d'accord pour se faire surveiller pour la peur du terrorisme, mais au moins on aura eu le mérite d'en débattre.
Oui, c'est ça.
Et ça, voilà.
Devant le Congrès ou devant...
Et l'autre rapport théorique quand même que au cours de cette émission, au fil de cette émission, on l'a bien vu, sur la notion de vie privée. Il revient sans cesse sur cette notion de vie privée, qui est quand même un terme, et il le dit, absolument absurde aujourd'hui quand on parle de vie privée, et il y a un très beau passage là-dessus sur ce qu'on considère comme de la vie privée, qui est une espèce d'idée par défaut. Lui considère qu'on devrait remplacer ce terme-là par le terme de liberté, puisque ce qui est aujourd'hui privé ne l'est vraiment plus. Son jugement sur le RGPD européen est assez intéressant. Il considère qu'à la fois l'Europe est fidèle à sa tradition et a fait un geste fort, et en même temps il relativise complètement cette politique. Il faut quand même dire qu'il a récemment, il y a deux jours, trois jours, redit qu'il aimerait bien être accueilli en France.
Oui, il avait déposé
d'asile. L'Europe s'en tire pas trop.
Un asile politique en France notamment. Il y a même eu des pétitions pour que cet asile politique soit accepté. Patrick Veil avait contribué à ça notamment, et ça avait été immédiatement, je pense même avant la publication, la pétition refusée et par Manuel Valls, Premier ministre, et par François Hollande. Un mot peut-être sur le texte français. On est un peu déçus. Alors sans doute les traducteurs, qui sont deux, ont eu très peu de temps pour le traduire, mais il y a beaucoup de fautes, beaucoup d'erreurs, fautes de frappe, mais aussi d'approximation dans la traduction, ce qui fait que le livre est un peu, parfois un peu, pas toujours fluide dans certains de ses aspects.
Pas sur les termes techniques, c'est ça qui est étrange. Ah, sur les termes techniques aussi, c'est vrai. Bon, bah alors c'est là que je suis une...
Non, par exemple, on dit pas chiffrage, on dit chiffrement.
Oui, on dit chiffrement.
Cryptage,
d'ailleurs. On dit pas cryptage, on dit chiffrement, ça c'est vrai.
Non, mais c'est paradoxal. Des fois, ils gardent des mots anglais alors que les gens ne les comprennent pas forcément. C'est des mots très complexes. Et parfois, ils les traduisent ou ils mettent dans pas de page des mots en anglais qu'on utilise tout le temps. Donc c'est un peu...
Parfois, ils gardent les deux, ils essayent
voilà.
Les données.
Mais bon, encore une fois, ils ont dû avoir, les éditions du Seuil ont dû leur donner 10 jours pour traduire ce livre à deux. On peut les excuser peut-être pour ça. Un dernier mot sur un passage assez étonnant, puisqu'au fond, dans ce livre, il y a un autre livre. Emmanuel Paquette, c'est celui de l'INSEE Mills.
Oui, effectivement, c'est la compagne d'Edward Snowden. À la fin, c'est vrai que c'est un personnage qui n'a rien vécu et paradoxalement tout subi. C'est-à-dire qu'elle n'a pas vécu.
Il n'avait pas mis dans la confidence.
Puisqu'il n'avait pas le droit.
Il avait tous les droits, mais.
Ah non, il était tenu par des accords de confidentialité. Et quand il était travaillé à la NSA et la CIA, il pouvait pas dire ce sur quoi il travaillait.
Non, mais quand il a voulu parler, il l'a même pas dit à sa copine.
Non, pour pas la mettre en danger. Donc, effectivement, il est parti. Et c'est, elle-même a même pensé à un moment donné qu'il était parti pour quelqu'un d'autre.
Elle dit même à un ouvrage.
Elle le dit dans son journal. Notre relation est peut-être terminée. Et du coup, c'est quelqu'un qui comprend a posteriori les changements d'attitude de son conjoint, ses changements d'humeur, ses changements aussi d'état de santé, puisque, comme le disait tout à l'heure Zoé, c'est là où il a découvert qu'il avait des syndromes, notamment d'épileptiques, effectivement. Et donc, on voit sa réaction, c'est des échanges épistolaires ou de mails, extrêmement intéressants, parce que, du coup, ça éclaire d'un autre point de vue cette histoire. Et puis, bon, alors là, c'est un peu le happy end à la américaine, mais il se trouve qu'elle l'a rejoint en Russie et que finalement, ils se sont mariés, donc le livre se termine comme ça. Bon, là, ça se termine un peu en guimauve, mais c'est toujours sympa.
oui, c'est vrai de se dire que ça fait plaisir.
Mais bon, je suis sûr que Zoé, elle a beaucoup aimé.
Oh, mais pourquoi tout de suite? Alors, d'ailleurs, c'est parce que je suis la seule femme
pas du tout. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé.
Parce que le livre est assez difficile, et là, ça.
Ça, mais non, mais sur simplement le journal de l'INSEE Mills, c'est vrai que c'est ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir tout simplement ce que les services de renseignement font quand Edward Snowden s'en va. C'est la partie qui nous manquait vraiment, pour le coup, qu'on pouvait imaginer, mais qu'on ne connaissait pas. L'enquête, les interrogatoires, et ils deviennent fous. On sent leur énervement, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à croire qu'elle ne sait rien. Et ça, c'est un moment assez jouissif. Et on se dit quand même qu'il est relativement fort, mais qu'effectivement, il a fait un pari énorme.
Voilà, un livre important, en tout cas. Mémoire vive, c'est signé d'Edward Snowden. Ça vient de paraître aux éditions du Seuil.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
18h42 sur France Culture, toujours dans l'actualité, un peu longue en ce dimanche 22 septembre. Emmanuel Paquette, vous avez tenté de comprendre ce qu'allait se passer dans nos vies avec l'arrivée possible, attendue, annoncée de la 5G. On n'arrête pas, on avait déjà la 3G, la 4G était à peine arrivée, qu'on passe à la 5G.
Oui, accrochez-vous parce que Donald Trump, il parle déjà de la 6G. Donc on va pour l'instant s'intéresser à la 5G. Il faut voir qu'aujourd'hui, à la fin juin, il y a eu 31 lancements commerciaux dans le monde. Ceux qui ont ouvert déjà un peu les hostilités, c'est la Corée du Sud et les États-Unis. D'ailleurs, les deux pays se sont un peu courus l'un après l'autre pour savoir quel serait le premier à proposer de la 5G sur son pays. Dans son pays, c'était une question un peu de soft power. Et ben, c'est la Corée du Sud qui finalement a lancé le premier de ses services en avril, poussé par ses leaders nationaux, donc Samsung notamment et LG. Et aujourd'hui, donc, on voit plein d'opérateurs un peu partout sur la planète et plein de pays, notamment l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne, qui ont mis en place des enchères, qui ont vendu des fréquences pour la 5G et les opérateurs qui commencent à déployer leur réseau plus rapidement qu'avec la 4G et surtout avec plus de terminaux. Aujourd'hui, il y aura d'ici la fin de l'année une vingtaine de téléphones qui seront compatibles 5G. Au même moment au démarrage de la 4G, il n'y en avait que 3 sur le marché en 2012. Donc on voit que aujourd'hui l'industrie, dès qu'une nouvelle génération arrive, elle se met tout de suite en branle pour déployer rapidement un réseau et puis pour proposer des terminaux pour que les utilisateurs puissent les utiliser.
Alors qu'en est-il au-delà du monde? Qu'en est-il de la France? Et pourquoi faire? À quoi ça va servir la 5G? En quoi ça va changer nos vies?
Alors pour l'instant, on attend toujours le processus d'attribution des enchères en France. Donc c'est l'ARCEP, le gendarme des télécoms, qui s'en occupe. Elle devait remettre des premières conclusions à la fin du mois de septembre. Et maintenant, on attend le calendrier d'attribution. Alors, selon Bouygues Télécom, ça pourrait arriver probablement fin d'année, même peut-être début d'année prochaine. Donc on serait un des derniers grands pays européens à attribuer des licences 5G. Alors après, dans l'utilité de cette technologie, alors c'est vraiment une rupture par rapport à la 4G, puisque la 5G permet non seulement d'augmenter les débits sur votre téléphone, donc pour faire de la vidéo, pour passer des appels, ce qu'on appelle voice over IP, donc des appels de la voix sur IP, sur WhatsApp ou Facebook Messenger par exemple. Et puis surtout, il va permettre des applications dans des domaines industriels, notamment pour la voiture connectée, alors ça c'est pas pour tout de suite, mais également pour déployer des réseaux internes à des entreprises, que ce soit sur des centrales nucléaires, que ce soit sur des paquebots par exemple, pour essayer de faire du suivi de containers, où les containers arrivent, où ils sont livrés, quel est leur point de livraison. On fait faire un suivi direct de tout ce qui peut être connectable au réseau 5G. Et alors pour ça, la 5G permet ce qu'on appelle du network slicing, donc c'est saucissonner le réseau, c'est-à-dire qu'on peut permettre aux gens comme vous et moi de se connecter pour se divertir, mais laisser une tranche de fréquence qui soit disponible que pour des utilisations industrielles et pour que là, il n'y ait pas de parasitage avec des gens qui veulent regarder des vidéos, etc. Donc on peut avoir une qualité de service assez importante pour les industriels et puis une qualité de service un peu moindre pour les particuliers.
En termes de spécificité, la 5G ?
Alors, au-delà du network slicing, il y a deux autres techniques aujourd'hui qui sont liées directement à cette technologie. Il y a ce qu'on appelle le beamforming. Alors, c'est important d'en parler parce qu'il peut y avoir des répercussions en termes de santé. En tout cas, c'est ce que pensent les Suisses aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'est le beamforming? C'est simplement une façon aujourd'hui du réseau de cibler directement le terminal qui est compatible avec le réseau 5G. Aujourd'hui, quand vous êtes connecté à un réseau 4G, c'est un peu comme si vous étiez sous une ombrelle ou un parapluie. Donc, tout le monde à la même couverture et tout le monde se partage le réseau. Demain, avec le 5G, vous serez directement ciblé par l'antenne. Alors, c'est un peu simpliste hein, ce que je dis, mais c'est directement le faisceau qui se dirige vers le terminal, qui le reconnaît et qui discute tout de suite avec lui, au lieu d'arroser un peu partout. Donc, le point positif, c'est que bah, du coup, la qualité est meilleure, il y a moins de déperdition des fréquences. Le problème, c'est que vous êtes directement visé par l'antenne. Et alors, c'est là où, dans certains cantons suisses, il y a eu des plaintes pour savoir est-ce qu'il n'y avait pas des problèmes potentiels de santé autour de la 5G. Et même en France, aujourd'hui, la NFR, l'Agence Nationale des Fréquences, est en train de voir si effectivement, autour de la 5G, il ne peut pas y avoir des risques de santé pour les gens qui habitent autour et surtout pour les possesseurs de smartphones 5G.
C'est un peu technique, mais c'est passionnant et ça risque d'ailleurs d'affecter donc nos vies, mais aussi nos voitures, pourquoi pas nos frigidaires, tous utiliseront la 5G. Pourquoi d'abord iPhone ne proposera pas la technologie 5G tout prochainement dans les nouvelles versions d'iPhone et pourquoi Free et Bouygues ne sont pas très satisfaits?
Alors, concernant Apple, effectivement, le nouvel iPhone 11 qui vient d'être dévoilé, enfin la gamme des iPhone 11 ne sont pas compatibles 5G, simplement parce que Apple a un désaccord avec un de ses fournisseurs, Qualcomm, qui est le plus avancé en termes de modem 5G. Donc, Apple s'est retourné vers un autre fournisseur, en l'occurrence Intel, et Intel a mis du temps à développer ce modem 5G, au point qu'Apple a décidé finalement de racheter la division d'Intel. et de développer en interne son propre modem et de tout contrôler pour ne plus dépendre de Qualcomm. Donc on en est là, et donc le prochain iPhone, celui qui sera dévoilé en septembre 2020, sera compatible 5G. Donc voilà pour l'instant ce qu'on sait concernant Apple. Sur les fournisseurs d'accès et sur les opérateurs télécoms en France, Bouygues et Free ont une énorme crainte, c'est-à-dire qu'on revive en France ce qu'on a vu en Allemagne et en Italie, c'est-à-dire des enchères qui sont montées à des niveaux stratosphériques. En Allemagne, les opérateurs ont dépensé 6,5 milliards d'euros pour acquérir ces fréquences. Et en Italie, c'était quasiment pareil, un peu plus de 6 milliards pour acquérir les fréquences. Il n'y a qu'en Angleterre, le pays le plus libéral, où là, ils n'ont dépensé qu'1,4 milliard de pounds. Donc, ça veut dire 1,6 milliard en dollars, 1,7 milliard en dollars. Et donc, la crainte, c'est qu'effectivement, il y a une course à l'échalote et que Orange et SFR, qui est le plus de ressources financières, achète le plus de fréquences. Donc, ce qu'a fait l'ARCEP, le gendarme des télécoms, il a dit qu'il y aurait un prix fixe sur un premier bloc de fréquences de 40 MHz. Et sur les 60 MHz restants, et ben là, ça serait des enchères. Et là, c'est ce que veulent pas Bouygues et Free, en disant qu'ils pourraient disparaître, ils pourraient mourir, si on ne change pas ce mode d'attribution. C'est-à-dire, si on ne réserve pas 60 MHz à tous par défaut, et puis 40 ou plus MHz après aux enchères. Et ça, ce sera le prix qu'il décidera.
Eh bien, merci Emmanuel Paquette, c'est un peu technique, mais encore une fois, ça affecte nos vies. C'est des questions qui nous concernent. Vous pouvez retrouver notre séquence Actualité des industries culturelles et du numérique dans son podcast dédié sur le site de France Culture, page Soft Power.